Bonjour Jean-Gilbert, bonjour aux amis. Vous êtes les tout premiers à apparaître ce matin. Bonjour à Pascal, Gabriel, Jean-Bernard. J'espère que vous allez bien. Gabriel, est-ce que, ou plutôt Pascal, est-ce que votre époux a des traitements cette semaine? Où il est en repos. Je crois qu'il est en repos, il me semble. Je ne vois pas tout le monde qui apparaît ce matin. Vous êtes quatre et je ne vois pas tout le monde qui est connecté. Bonjour à la sœur Florie, au frère Louis. Donc aujourd'hui, on est le lundi 9 août 2021. Bonjour Natacha, que Dieu te bénisse. Quelques journées très chaudes avec canicule. Il va faire au-dessus de 20 degrés la nuit. Et puis le jour avec le facteur humidex, on va frayer avec les 40 degrés. Donc j'espère que vous avez la climatisation là où vous êtes, que vous pouvez rester au frais. Merci Pascal pour l'info. On continue à prier pour vous et Gabriel, bien entendu. Bonjour Rachel, sois bénie. Bonjour Rosie, que Dieu vous bénisse. Dieu la bénisse également à Florie. Un peu de pluie de notre côté, Rosie. Un peu de pluie, il y en avait tout à l'heure. Quelques orages possibles en après-midi à cause de la grosse chaleur. Mais rien pour faire descendre le mercure, malheureusement. Dieu la bendiga, hermana Susana. Merci, Gabriel. Merci, Pascal. De toute façon, quand je dis merci à Pascal, je dis merci à Gabriel et vice-versa. Que Dieu vous bénisse tous deux. Effectivement, les jours humides, Rachel, ça peut être très pénible. Tu salues les sœurs qui sont avec toi ce matin. Donc, je suppose Mona, Ocilia, Chantal. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont connectés ce matin. Bonjour au Pasteur David. God bless you, Pasteur David. Bonjour à Marie-Marthe, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si Marjo est avec vous. Si elle est à vos côtés, vous la saluez. Bonjour Maggie, que Dieu vous bénisse. Bonjour à mon père et à ma mère. Si je ne m'abuse, vous êtes encore solitaire ce matin. La frangine n'est pas retournée chez vous, je crois, pour l'instant. Donc, on vous salue à tous deux. Très content de vous avoir avec nous aussi, Maggie. Soyez bénis. Marie-Huguette, bonjour. Donc, il y en a qui vont s'ennuyer maintenant que les Jeux olympiques sont terminés. C'était de beaux Jeux, malgré l'absence de public, de belles performances de nos athlètes, certaines histoires plus émouvantes encore que d'autres. Donc, j'espère que vous en avez profité. Je n'ai pas suivi autant que d'habitude. Mais j'ai eu du plaisir à voir ce que j'ai regardé. Et par moments, j'ai été très inspiré aussi. Donc on salue Eduardo aussi, que Dieu l'aide dans sa convalescence. Justine Davila, c'est juste pour vous dire que nous ne prenons aucune publicité sur ce site. Donc je supprime votre commentaire. D'accord. Bonjour Myriam, bonjour Donald. Bonjour Guy, que Dieu te bénisse. Donc Maggie, vous saluez Eduardo de notre part. Thérèse, que Dieu te bénisse. Bienvenue parmi nous. Encore quelques minutes avant qu'on ne débute. Vous avez l'occasion d'aller chercher votre bouteille d'eau, votre café, votre thé. Pourquoi pas même votre croissant, puisque certains appellent ça le déjeuner spirituel. Donc si vous voulez le combiner avec un croissant, je n'ai aucune objection. On continue ce matin notre étude sur les symboles que nous donne la Bible concernant la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va voir un passage ou un symbole qu'on voit un peu moins souvent que d'habitude. En fait, on ne le voit qu'une fois dans la parole de Dieu. Donc, Rachel, dis-nous qui est connecté avec toi? Bonjour à Rima Anna. Bonjour à Julie. Bonjour à Mereste, Suze et la petite famille. On vous rappelle que le cours avec le pasteur André est terminé, donc il n'y a pas de cours ce soir. Vous avez répit pour la soirée. Pasteur André va prendre quelques semaines de repos, puis il reviendra avec une autre série d'enseignements. Je crois que que ça va être cette fois-ci, je pense, si je ne m'abuse. Guy, il faut faire attention avec ce que tu aimes ou ce à quoi tu coches, parce que la dernière personne que tu as cochée faisait la publicité pour la franc-maçonnerie. Donc, je viens de supprimer le commentaire, mais juste. Soyons vigilants dans ce que nous cochons comme salutation. Et je ne suis pas étonné de les voir ce matin venir nous déranger si de bonne heure. Bonjour à Denise et à Gérard. Bonjour à la sœur Sylvia, l'épouse du pasteur David. Bonjour à Denise, cette fois-ci de Laval. Bonjour à Kathleen, bonjour à Lalande et Landry, bonjour à la sœur Nancy. Bien sûr, quand j'ai salué Lalande, je pense à Landry, oui, mais aussi aux deux grandes jeunes filles, que Dieu les bénisse aussi. Pour ceux qui ne savent pas, la sœur Lalande nous écoute depuis Narbonne, en France. Bonjour à Marie-André. Bonjour à Farley. Donc, effectivement, Michel, je vous salue. Je ne vous connais pas, mais je vous salue, effectivement. On garde le Liban dans nos prières. On a des gens qui nous sont chers, qui sont là-bas, et je sais combien les temps sont difficiles. Effectivement, l'épître aux Éphésiens. Mais je ne crois pas que c'est la semaine prochaine. Parce que je crois qu'il va être à l'extérieur la semaine prochaine. Donc, il faudra confirmer. On vous confirmera de toute manière le début du cours. Mais. Ok, ce n'est pas la semaine prochaine. La prochaine étude du lundi, effectivement. Ça sera effectivement l'épître aux Éphésiens. Tu as bien raison, Mériste. Bonjour Babette, bonjour Andreas. Alors on va prier, on va débuter, on a un peu de stock ce matin à développer tous ensemble. Alors Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes. Je te demande Seigneur de nous éclairer, de nous toucher par ta présence, par ta parole, que celle-ci Seigneur puisse ouvrir notre entendement. À des choses qui nous sont parfois complexes ou des choses desquelles on détourne parfois le regard. Alors enseigne-nous, parle-nous, que cette parole que toi tu avais prévue de toute éternité pour aujourd'hui, elle ne dépend pas d'un calendrier d'un homme, elle ne dépend pas d'un calendrier d'une réflexion humaine, mais elle vient de toi selon le calendrier que toi tu as établi de toute éternité pour nous. Donc on te demande Seigneur d'ouvrir notre compréhension et de faire en sorte, Seigneur, que cette parole ne trouve pas un sol inadéquat, mais qu'elle puisse trouver une terre fertile dans laquelle elle peut s'implanter profondément, croître, être arrosée par ton onction, par ton esprit et porter un fruit qui t'est agréable. Nous t'avons prié dans le précieux, le merveilleux, le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, comme on le voit depuis le début du mois d'août, aujourd'hui on est en une sixième séance de bénédiction matinale, une sixième thématique en fait que nous abordons aujourd'hui. Tout au long du mois d'août, on étudie la question de l'importance que doit revêtir la parole de Dieu dans notre vie. Donc, le dimanche et le mercredi soir, on étudie la parabole du semeur, qui devrait s'intituler la parabole des terrains. Ceux qui n'étaient pas là hier, on vous invite à regarder l'enseignement qui est encore affiché sur la page Facebook de l'Église et aussi sur la page Internet de l'Église. Ça vous donnera une idée de ce qu'on a partagé hier. Plusieurs personnes m'ont dit qu'ils ont été fortifiés et bénis par la parole. Donc, ça, c'est ce qu'on fait le dimanche matin, donc parabole du semeur ou des terrains. Et puis, le matin, lors de nos bénédictions matinales, on étudie différentes images. On a essayé de faire la nomenclature de la majeure partie des symboles que nous donne la Bible concernant la parole de Dieu. Alors, la semaine dernière, on en a vu déjà quelques-uns. On a vu la semence, on a vu le pain, on a vu le lait. On a vu la nourriture solide ou la viande. Et aujourd'hui, on entre dans une nouvelle phase et on va parler d'un outil en particulier, le marteau. Donc, la Bible est associée au marteau dans un passage. Je vous donne déjà le terme hébraïque pour marteau. Pour ceux qui se joignent à nous pour une première fois, qui n'ont peut-être pas l'habitude avec les textes bibliques, la Bible est divisée en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament a été rédigé en hébreu, le Nouveau Testament en grec. Donc, le passage qui va nous servir de méditation aujourd'hui, étant dans l'Ancien Testament, le terme « marteau » va donc se retrouver en hébreu. Marteau en hébreu, c'est, si vous voulez, l'écriture translittérale, c'est P-A-T-T-I-Y-E. SH, PATTIYSH, donc Patty-ish, qui veut dire marteau. Et ce passage se trouve dans Jérémie au chapitre 23. Et je vous invite à la voir parce que après qu'on ait expliqué ce verset, après qu'on en ait sorti les grandes lignes, on va retourner à ce passage, mais sur l'ensemble du texte qui nous est donné, du verset 25 à 40. Mais le texte en tant que tel, le verset qui le mentionne, ou qui mentionne le terme marteau, c'est le verset 29 qui dit, mais ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Donc, marteau. Et ici, on nous fait donc la référence que la parole de Dieu est comme un feu, qu'on aura l'occasion de rementionner ultérieurement, ou comme un marteau. Et dans les deux sens, dans les deux utilisations du terme marteau ou feu, ici, on parle d'une cassure, on parle de la démolition d'une chose. Donc le feu qui consume, qui brûle, qui détruit, et le marteau qui vient briser le roc en morceaux. En fait, le terme patiish apparaît à trois reprises. Pour ceux qui prennent des notes, et je sais que vous êtes nombreux à le faire, vous retrouvez ce terme-là dans Ésaïe au chapitre 41 et le verset 7. Ésaïe 41, verset 7. Et là, on va nous parler du marteau comme un outil que les hommes vont utiliser notamment pour réparer des idoles. Dans Jérémie au chapitre 50, le verset 23, on va comparer le marteau à l'empire babylonien qui était un oppresseur des nations. Et on va dire de Babylone qu'elle va être déchue, qu'elle va chuter, tomber, qu'elle va perdre toute son hégémonie, alors qu'elle était avant cela. Donc le marteau par rapport aux nations, elle était autrefois donc cet oppresseur des nations. Donc voilà les trois utilisations du terme marteau, une fois comme un outil pour réparer les idoles, une fois comme une nation qui vient détruire d'autres nations, mais dans le contexte qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le marteau en tant que parole de Dieu qui vient briser le roc, qui vient corriger une situation. Voilà pourquoi le titre que j'ai donné aujourd'hui, c'est La parole de Dieu, un marteau qui réforme ou qui brise. C'est les deux choses que le marteau va faire. En fait, le marteau, oui, va nous permettre de piocher sur le roc et de briser le roc, de le fragmenter en morceaux et de détruire sa forme initiale pour le réduire à des débris. La deuxième utilisation d'un marteau, lorsqu'on parle de ce marteau qui est plus comme une masse qu'un marteau qui plante des clous, ça va être l'utilisation qu'on en fait à la forge. Donc, lorsqu'on est en train de faire fondre du métal ou de le mettre à son point de rupture, donc il devient plus mou, il est très rouge, et là, on vient le façonner. On vient le marteler avec un marteau, bien entendu, et qui permet de donner à ce fer qui a été mis au rouge, de lui donner une nouvelle forme. Dans le contexte du passage présent, dans le contexte de ce verset dans Jérémie au chapitre 23 et le verset 29, le sujet qui est abordé ici, c'est la question de la prophétie. Et on nous dit donc que la parole de Dieu est comme un feu qui vient brûler la fausse prophétie ou le faux prophète et qui vient marteler, qui vient le briser tant la fausse prophétie que le faux prophète. Et dans notre cas, on doit comprendre que cette parole de Dieu va servir à juger la prophétie et le prophète, à corriger éventuellement la prophétie et le prophète, voire même, et là c'est là où on parle du marteau qui brise le roc, voire même d'annihiler plutôt, donc de mettre fin à la portée du faux prophète ou de la fausse prophétie. Reprenons le texte lorsqu'on regarde ce verset dans son ensemble. Et ça serait essentiellement du verset 25 au verset 40. Aujourd'hui, on va parler plus de la prophétie parce que le marteau en soi, on comprend l'image qui vient marteler, qui vient donc déformer ou reformer le fer dans une autre charpente, vers une autre forme, une autre image, ou qui vient briser le rocher, comme on en parle ici. Voyons ce que Dieu va critiquer par rapport aux faux prophètes et aux fausses prophéties. Je vous invite peut-être même à lire avec moi depuis le verset 23, et on va aller jusqu'au verset, à partir du verset 23, et on va aller jusqu'au verset 25 ou 26 pour commencer. « Ne suis-je pas un Dieu que de près, dit l'Éternel? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendrait-il dans un lieu caché, sans que je ne le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom le mensonge, en disant, j'ai un songe, j'ai un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Alors, la première chose qu'on voit ici, c'est le contexte dans lequel le verset concernant le marteau qui vient briser le roc va être donné. On doit comprendre que tout ce qu'on appelle prophétie n'est pas prophétie. Que tout ce qu'on proclame comme venant de Dieu n'est pas nécessairement venant de Dieu. Et c'est pas parce que quelqu'un parlerait en langue et que quelqu'un dirait « ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur » que ce qui sort de sa bouche est réellement du Seigneur. C'est un cas réel dans l'Ancien Testament, c'est un cas réel dans le Nouveau Testament, et nous qui sommes encore aujourd'hui continuation de l'Église du Nouveau Testament, c'est assurément quelque chose qui se passe encore régulièrement dans nos Églises. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit permettre? Tant qu'on peut corriger, réformer la chose, ça serait l'idéal, mais on doit savoir que ça va arriver. On a tous eu l'occasion de prendre notre volonté pour la volonté de Dieu, de prendre nos sentiments pour les sentiments de Dieu. Sans mauvaise intention. Parfois, c'est tout simplement « j'ai le feeling que », puis on se rencontre avec le temps que notre feeling était erroné. Mais dans d'autres occasions, comme ici dans ce passage, et comme on voit à l'occasion dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui vont tout simplement se dire inspiré de Dieu, malgré la fausseté de leurs prétentions, et qui vont quand même véhiculer ce message-là. Et là, il faut faire attention, il faut avoir des mesures pour réformer et pour changer la chose. Le verset 27 va être la première critique que Dieu va faire, ou la première raison de l'insatisfaction de Dieu. Au verset 27, ils vont dire, le prophète Jérémie va dire, ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. L'idée ici, c'est que avec ce message, on attise l'attention des gens, on attire l'intérêt des gens et on détourne l'intérêt qui devrait être porté vers Dieu et on le tourne vers nous. Que ce soit les prophètes de Baal, lorsqu'ils avaient leur prophétie, ils détournaient l'attention du peuple d'Israël de Dieu vers Baal. Et ici, c'est cette même intention que Dieu va réprimer, que Dieu va réprouver, cette intention de faire oublier le nom. C'est une expression qui veut simplement dire détourner le regard, détourner l'attention. Au lieu que l'attention soit portée sur Dieu, à ce moment-là, l'attention est portée vers ce prophète qui prétend avoir un mot de la part de Dieu, mais dont le seul intérêt et d'attirer l'attention vers sa propre personne. On va remarquer que durant les différents reproches que Dieu va former ou formuler à l'égard des faux prophètes, c'est souvent une problématique d'orgueil, de fierté et de quête d'attention, de quête d'un public, d'un auditoire. Donc ici, le premier reproche, au lieu de garder l'attention vers Dieu, ils attirent l'attention vers eux. Ce qui se passe régulièrement, c'est que cette personne va se mettre à parler, puis après ça, on se dit, mais j'ai tellement besoin d'avoir une parole de la part du Seigneur, et on va voir cette personne et on lui demande, t'aurais pas reçu quelque chose de la part de Dieu? T'aurais pas quelque chose à me dire? Pourrais-tu prier pour que le Seigneur te dise quelque chose? Juste voir si le Seigneur... Et à ce moment-là, notre intérêt n'est plus vers le Seigneur, mais notre intérêt est vers ce faux prophète, cette fausse prophétesse, cette personne qui dit parler au nom du Seigneur, mais qui n'en parle pas. Verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Et c'est là la phrase importante. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. La paille, c'est la tige de blé. Le froment, c'est le grain de blé qui pousse dans l'épi et qui amène la céréale. Et ce qui se passe ici, c'est que lorsqu'on parle de mêler la paille au froment, c'est d'accorder à la paille l'importance même qui devrait être accordée au froment. Et le faux prophète, dans son essence, dans sa quête, cherche à être aussi important, avec un peu d'humilité, va dire, mais j'ai quand même une importance, peut-être pas autant que la parole de Dieu, mais je suis quand même son canal, et on veut qu'on le reconnaisse comme un canal, si ce n'est aussi important, ou au moins un peu important devant Dieu. Alors qu'ici, le prophète va dire clairement, on ne mêle pas le froment avec la paille. La seule chose qui est importante dans le blé, c'est le grain, c'est la semence. Et ça, c'est d'autant plus réel et véridique que Dieu va dire lui-même, Jésus va dire lui-même, regardez, s'ils se taisent, les roches vont parler. Dieu n'a pas besoin d'un canal humain nécessairement pour parler. Dieu pourrait s'en passer. Dieu décide dans sa grâce. Dieu décide dans sa bonté et dans son désir d'utiliser des canaux humains, d'utiliser effectivement un homme ou une femme. Mais Dieu n'est pas obligé. Ce n'est pas parce que je suis spirituel que j'ai une certaine j'ai un certain cheminement avec Dieu, que j'ai un certain parcours, que Dieu n'a d'autre choix que de m'utiliser. Et il y a de ces prophètes qui, au début, commencent bien et, à un moment donné, se croient indispensables pour l'Église, se croient indispensables pour tel ou tel frère, se croient indispensables pour leur entourage, se croient indispensables pour amener la parole de Dieu entre Dieu et son peuple. Dieu peut faire sans toi et Dieu peut faire sans moi. S'il a envie, il pourrait faire en sorte que cette table qui est devant moi se mette à parler et que moi je sois muet. Et là, la critique qui est faite donc à ces prophètes ou à ces faux prophètes, c'est vous voulez de l'importance qui ne vous est pas due. Vous voulez une reconnaissance publique qui ne vous est pas due. Verset 30. C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui dérobent mes paroles l'un à l'autre. Qui dérobent mes paroles l'un à l'autre. En fait, ici, on nous parle de prophètes qui se font la compétition les uns aux autres. Les prophètes qui disent, moi je parle au nom de l'Éternel. Puis un autre va se lever en disant, non, c'est moi qui parle au nom de l'Éternel. Par manque de maturité, par jalousie spirituelle, mais pas du tout divine, par jalousie du rôle de quelqu'un, on a déjà vu, ça s'est fait dans l'histoire, j'ai moi-même été témoin de certaines scènes ainsi, où un prophète, entre guillemets, de Dieu, devient jaloux de ce que l'autre prophète, entre guillemets, de Dieu, a dit. Et à ce moment-là, il y a une concurrence entre les prophètes. Et parfois, c'est même pas entre les prophètes, mais c'est entre le prophète et le pasteur. C'est entre le prophète et celui qui dirige les champs. C'est entre le prophète et celui qui conduit l'assemblée. C'est entre le prophète et celui qui donne l'orientation au culte ou à l'assemblée ou à la réunion des saints. Et là, on voit cette compétition qui se fait entre un morceau et un autre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire à ce moment-là? On est simplement en train de dire, je veux ma part du gâteau, je veux l'attention des uns, je veux l'attention des autres. Et on se fait concurrence. Lorsqu'il y a concurrence, ça veut dire que je crois que ma part est primordiale. Je crois que ma part, si elle n'est pas primordiale, elle est quand même importante et on devrait m'accorder l'attention. Regarde, si tu te tais et que ça vient de Dieu, les pierres parleront. Si on te coupe la parole et que ça vient de Dieu, la chaise vide à côté du prédicateur va se mettre à parler à la place du prédicateur. Mais très régulièrement, on voit cette concurrence et cette bataille qui s'opère. Au verset 31, on nous dit une autre chose que Dieu n'aime pas. « Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. » Et là, on parle de ces prophètes qui ont une pensée et qui se disent « Maintenant, je vais le dire au peuple. » Et ils disent « Ainsi parle l'Éternel. » Et en fait, ce qu'ils transmettent, c'est leur propre parole et non pas les paroles de Dieu. Et ce faisant, écoutez, c'est grave. Ce faisant, ils usurpent, ils volent la place de Dieu. Parce qu'il dit, ainsi parle l'Éternel, mais ça ne vient pas de Dieu, ça vient d'eux. Alors, ils volent l'autorité de Dieu, ils volent la place de Dieu, ils volent le rôle de Dieu en prétendant que leurs propos viennent de Dieu, alors qu'ils ne viennent que de leur propre personne. Et là, ça devient grave. On ne vole pas Dieu. On ne usurpe pas, ça va être plus facile comme ça, on ne usurpe pas, faites la liaison si vous voulez, la place de Dieu. On ne peut pas prétendre parler au nom de Dieu alors que nos paroles viennent de nous-mêmes. Verset 32, il y a deux points. Premièrement, il va dire, voici ce que dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes, qui racontent et qui égarent mon peuple. Il y a des gens qui veulent simplement être entendus. Et ils promulguent par le fait qu'ils proclament que ce sont des paroles qui viennent de Dieu. Ils donnent de mauvaises directives au peuple. Ils disent, ainsi parle l'Éternel, allez à droite. Alors que Dieu dit de ne pas aller à droite. Après ça, ils vont dire, ainsi parle l'Éternel, tournez maintenant à gauche. Alors que Dieu dit non, il faut aller tout droit. C'est un cas réel dans la vie de Jérémie. C'est un cas réel dans l'Église d'aujourd'hui. Où lorsqu'on parle au nom de Dieu et que ce n'est pas Dieu qui parle, on est en train de donner des indications, on est en train de dire au peuple, voici ce que vous devriez faire. Alors que ça ne vient pas de Dieu. Dans le cas de Jérémie, ce qui se passe concrètement, c'est qu'il y a des gens, des prophètes, qui ont été déportés avec la génération de Daniel et qui se retrouvent à l'époque de Jérémie encore en captivité. Et ils sont en train de dire, oui, ça ne sera pas long, on va vous ramener rapidement à Jérusalem. Et Dieu dit non. À travers Jérémie, il dit « Non, ne faites pas ce que vous êtes en train de faire. Au lieu de cela, commencez à bâtir, commencez à prendre soin de Babylone parce que vous allez y rester pendant un certain temps, 70 ans en fait. » Mais les autres prophètes disent « Non, 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 ne bâtissez rien, n'économisez rien, ne profitez pas de Babylone, ne faites pas croire Babylone parce que vous allez repartir. » Deux messages contradictoires. Un qui dit au peuple, bâtis à Babylone, fais croître Babylone, parce que ton bonheur dépend de Babylone, dépend de la ville où tu as été amené. Et les autres disent, ne t'occupe pas de Babylone, tu rentres à Jérusalem la semaine prochaine. Deux indications différentes. Quand on parle et qu'on ne parle pas au nom de l'Éternel réellement, on est en train d'amener le peuple dans l'égarement. Et ça, Dieu veille. Et ça, Dieu fait attention. Et c'est dangereux. Parce que je vous rappelle, On est en train de parler de l'Église, du corps de Christ, de l'épouse de Christ. Quand quelqu'un est en train de tenter d'égarer le peuple de Dieu, Dieu ne peut pas rester les bras croisés. Et voilà pourquoi, à l'occasion, il utilise le marteau pour détruire. Deuxième section du verset 32. « Par leurs mensonges et leur témérité, je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. » Ils se croient importants, ils se croient récipiendaires, ou ils se disent récipiendaires d'une parole venant de Dieu, mais en fait, ils sont en train d'égarer le peuple et ils ne sont d'aucune utilité pour le peuple. Ce qu'ils font n'est d'aucune utilité, voire même ce qu'ils font pourrait être néfaste pour certaines âmes sensibles qui prêteraient attention à leur dire et qui appliqueraient leurs fausses indications, leurs fausses directives divines dans leur propre vie. Lorsqu'on regarde par la suite le verset 36, si vous regardez le verset 33 jusqu'à 40, on va vous dire ce qui se passe là aussi. Il y a un test que Dieu va faire. Demandez-leur ce que l'Éternel a dit. Et eux se lèvent en disant, l'Éternel a dit, je vais détruire. Alors que l'Éternel a juste dit, je vais vous abandonner, je vais vous rejeter. Et ils disent, non, l'Éternel a dit, je vais vous détruire. Et Jérémie dit, non, le Seigneur a simplement dit, je vais me détourner de vous, je vais vous rejeter, mais je n'ai pas dit que j'allais vous détruire. Et là, on parle de la maison d'Israël. Pourquoi Dieu ne pouvait pas dire qu'il allait la détruire? Parce que Dieu a dit qu'il ne briserait pas le roseau qui penche, qu'il n'éteindrait pas le petit grain de charbon qui brûle encore. Donc détruire voudrait dire que Dieu va éliminer complètement le peuple d'Israël, qu'il va éliminer, alors que Dieu avait dit simplement, non, je vais vous rejeter, non, je vais me détourner. Et au verset 36, on nous dit, « Mais vous ne direz plus menace de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. » Vous tordez les paroles de l'Éternel. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Le faux prophète soit va inventer des histoires, soit va tordre les paroles de Dieu, va les déformer, va les aliéner. Et la parole de Dieu est vérité dans son ensemble. Dieu ne dit pas de demi-vérité, mais lorsqu'on tord la parole de Dieu, on vient en faire des fausses vérités ou des demi-vérités. Ne tords pas la parole de Dieu. Fais attention à ce que tu dis. Ceci vient de Dieu. Parce que si ça ne vient pas de Dieu, tu es en train de malmener la parole de Dieu. Tu es en train de malmener cette parole qui s'est faite chair et qui est morte à la croix pour le salut du pécheur. Faisons attention lorsqu'on se lève pour dire « Ainsi parle l'Éternel ». La prophétie doit donc être attestée. La Bible nous le dit que ce soit dans 1 Corinthiens 12, dans 1 Corinthiens 14, on le voit aussi dans les différentes instructions que Moïse va recevoir du Seigneur et qui va le transmettre dans le Pentateuque, donc dans les cinq premiers livres de l'Ancien Testament. On voit comment une prophétie doit être testée et attestée ou pour les quelles raisons elle devrait être rejetée. Sans rentrer dans le détail des textes bibliques, on va donner pour conclure ce matin cinq grandes lignes qui nous permettent effectivement d'attester la parole biblique. Un, la prophétie doit être attestée par sa soumission au message biblique. Il y a ce passage qui nous dit, on vient vous dire autre chose que ce qu'on vous a enseigné, ne prenez pas cette parole comme étant parole d'évangile. lorsqu'on vient vous dire, voici, il se trouve à tel endroit, ou voici, il se trouve à tel endroit, même si un ange se présentait. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que si la prophétie, ce qui est prétendument une prophétie, n'est pas en accord avec le logos, avec la parole écrite de Dieu, si cette prophétie vient à contredire la parole de Dieu, si cette prophétie vient à détourner la parole de Dieu, celle-ci doit être rejetée. Deuxièmement, la prophétie doit être attestée par sa réalisation. La parole de Dieu nous dit qu'un prophète est un vrai prophète si la prophétie qu'il a annoncée vient à s'accomplir. Mais si elle ne s'accomplit pas, cette prophétie n'est donc pas fruit de Dieu, mais fruit tout simplement de la pensée de l'homme. Donc s'il n'y a jamais une prophétie qui se concrétise dans la bouche d'un soi-disant prophète, ben celle-ci ne vient pas de Dieu. Troisièmement, la prophétie doit être attestée par sa soumission au mode opératoire biblique. Dans 1 Corinthiens 12, dans 1 Corinthiens 14, on va nous dire comment le don de prophétie doit se manifester. Et il y a un ordre dans l'Église. Et lorsque cet ordre n'est pas respecté, ben cette prophétie ne peut pas être reçue ou attestée comme venant de Dieu. La prophétie doit se soumettre aux règles d'opération, au mode opératoire que la parole de Dieu elle-même nous dicte. Quatrième point plutôt, son alignement. Donc la parole de Dieu, la prophétie plutôt, doit être attestée par son alignement. La Bible dit que par une même bouche, on ne peut pas bénir et maudire. Et il y a de ces gens qui prophétisent pour une même personne, un même groupe, où ils disent aujourd'hui, vous êtes les pires des pécheurs qui soient, et Dieu va amener le jugement sur vous, et il va vous châtier. Et deux jours après, cette même personne va dire sur ce même groupe, sur cette même assemblée, ah, vous êtes des enfants chéris, Dieu vous aime, Dieu est content avec ce que vous faites. Tu reviens deux jours plus tard et il y a une troisième prophétie et là on est revenu à la case départ. Vous êtes des mécréants, vous êtes dignes de l'enfer, vous allez être châtiés par Dieu. Six jours plus tard, tu reviens, une autre prophétie. Dieu n'est pas en train de fluctuer entre deux pensées. Ah, je te bénis, ah, je te maudis, ah, je te bénis, ah, je te maudis, ah, je te bénis, ah, je te maudis. À un moment donné, il doit avoir un alignement dans la pensée même qui est émise comme étant pensée de Dieu. Il doit y avoir une pérennité, une stabilité dans le message qui est donné sur une même personne, sur un même groupe. Alors, lorsque vous voyez quelqu'un qui est en train de dire « Dieu va vous maudire » et le jour d'après, qui est en train de dire à ce même groupe « Dieu va vous bénir » et le jour d'après, vous allez en enfer, et le jour d'après, j'ai tellement hâte de vous revoir au paradis avec moi. Ce sont des élucubrations humaines. Dernier point. La prophétie est attestée par le contrôle de soi du transmetteur. Paul va dire qu'il y a des moments où le prophète doit se taire. Parce qu'ils ne peuvent pas tous parler en même temps. Parce qu'ils ne peuvent pas couper tous l'assemblée en même temps. Parce qu'il y a un moment pour faire chaque chose. Il y a un moment pour toute chose. Donc, ça veut dire que le prophète qui aurait reçu une parole de Dieu est capable de maîtriser son message et d'attendre. Et si l'occasion ne se présente pas, ne lui est pas donnée pour X raisons, ce prophète-là est capable de maîtriser son corps, son être, son esprit, son âme, tout ce que vous voulez sortir, sa bouche, ses lèvres, et il est capable de prendre son message et d'aller le transmettre ultérieurement d'une autre manière. Et ça, c'est un problème qu'on rencontre régulièrement. J'en parlais à l'époque avec le pasteur Fontalvo. J'en suis moi-même témoin depuis le début de mon ministère. un des gros problèmes avec ceux qui débutent dans ce qu'on appelle aujourd'hui le prophétique, j'aime pas ce terme-là, mais utilisons-le malgré tout, de ceux qui débutent dans le prophétique, c'est qu'ils pensent qu'à tout prix, on doit les écouter. Non! Moi, en tant que pasteur, je dis régulièrement, lorsqu'on enseigne les cours sur les dons, particulièrement les dons de révélation, dons de sagesse, dons de connaissance, dons de prophétie, je dis aux gens, regardez, si vous avez quelque chose, allez voir une autorité et dites, voici ce que je crois, ce que je sens avoir reçu de Dieu. Vous écrivez le message, vous le donnez à cette autorité-là, et cette autorité-là va juger, est-ce que c'est le temps d'en parler ou ce n'est pas le temps d'en parler? Est-ce que je juge que ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? Le problème, c'est que très souvent, le nouveau prophète, entre guillemets, très souvent celui qui estime avoir eu une parole de Dieu, ne veut pas savoir qu'on ne donne pas sa prophétie au moment opportun. Qu'est-ce qu'on cherche? Transmettre l'information de Dieu ou un micro? Qu'est-ce qu'on cherche? Transmettre la parole et les directives claires de Dieu ou de l'attention du public? Le prophète est maître de sa prophétie. Ce n'est pas vrai qu'en tant que prophète, tu n'es pas capable de te taire, de l'écrire sur un papier et de le donner plus tard. Si cela est un problème pour toi, ce que tu veux, c'est de l'attention et non pas transmettre le message de Dieu. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. La parole de Dieu est effectivement un marteau qui brise le roc. Et ici, c'est ce roc que le faux prophète peut être, ce roc qui veut compétitionner avec le roc qu'est la parole de Dieu. Et il n'y a pas de compétition devant le Seigneur. Donc, sa propre parole va démolir la fausse prophétie. Alors, mon frère, ma sœur, faisons attention quand on dit ainsi parle le Seigneur. Parce que si ce n'est pas le Seigneur qui parle, on est en train de voler la place de Dieu. Et on en vit les conséquences par la suite. Dans ce chapitre 23 de Jérémie, on nous parle du châtiment qui attend ces faux prophètes. Je ne voudrais pas qu'un de nos frères, une de nos sœurs, puisse tomber dans le jugement de Dieu et tomber sous la sanction de Dieu. Alors faisons attention lorsqu'on prétend parler au nom du Seigneur. Voilà ce que on avait pour ce matin. Demain, on continue avec une autre image, un autre symbole de la parole de Dieu. Alors prions. Seigneur, merci pour ta parole, qui est effectivement un marteau qui vient détruire ces rochers qu'on a dans notre vie et qui veulent prendre ta place, ces choses qu'on bâtit autour de nous et qui veulent prétendre être aussi solides, aussi importants que toi. Régulièrement, c'est soit le fait qu'on est néophyte et qu'on est des gamins dans notre maturité spirituelle et on a besoin de prendre de la maturité, d'apprendre l'humilité et d'apprendre la soumission. Sinon, parfois, c'est tout simplement parce que nos cœurs sont effectivement mauvais et on vient en compétition avec l'attention des gens. On cherche l'attention, on cherche le regard, l'écoute des gens. Seigneur, nous ne voulons pas voler ta place. Nous ne voulons pas parler à ta place. Nous ne voulons pas annoncer quoi que ce soit à ta place. Nous savons, Seigneur, que c'est une grâce que tu nous fais de nous utiliser, quel que soit le ministère, quel que soit le don, quelle que soit l'habileté. Tu pourrais encore tout faire aujourd'hui sans nous. Mais il te plaît, Seigneur, de prendre de faibles canaux comme nous pour te manifester. Je prie, Seigneur, pour ma sœur, je prie pour mon frère, je prie pour moi-même, que l'humilité nous gagne. Que la soumission soit réelle envers ta parole et envers, Seigneur, les hommes, les serviteurs que tu établis dans ton Église. Et envers, Seigneur, ce que ta parole nous dit qui doit être la conduite dans le corps de Christ. Alors, Seigneur, quoi que nous disions, quoi que nous fassions, si nous nous apprêtons à parler de notre propre chef, que ta parole, Seigneur, vienne marteler notre esprit, notre âme, pour le réformer, pour le changer. Je prie, Seigneur, qu'on ne soit aucun d'entre nous à ce point où nous devons être brisés pour apprendre. Fragmentés, fracassés par le marteau de ta parole pour apprendre. J'espère, Seigneur, être docile devant toi. J'espère que ma sœur sera docile devant toi. J'espère que mon frère sera docile devant toi. Et tel qu'on le disait hier lors de notre conclusion, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je prie, Seigneur, que quiconque a besoin d'entendre puisse entendre. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce qu'on avait. On vous rappelle, ce soir, il n'y a pas de cours biblique. C'est quelques semaines de répit pour le pasteur André. Il va revenir effectivement avec l'épître aux Éphésiens lors de la reprise des cours qui seront quelque part à la fin août, début septembre, assurément. Donc d'ici là, simplement savoir que donc il n'y a pas de rendez-vous le lundi soir. Nous, on se retrouve demain matin pour notre prochaine bénédiction matinale. Et puis aussi, les inscriptions pour l'assemblée de dimanche en présentiel en cours. Je sais que plusieurs sont en vacances à l'extérieur, donc ces deux dernières semaines, il y avait un peu plus de place. Mais avant que la grosse vague de vacances ne commence, on était presque 100. Donc, les places étaient pratiquement toutes remplies. Donc, on vous invite, je ne sais pas quand est-ce que les vacances des gens terminent, donc on vous invite à ne pas tarder à vous inscrire pour vous assurer d'avoir une place qui vous est réservée. Vous connaissez les canaux pour le faire, le répondeur de l'Église, le répondeur téléphonique de l'Église, ou sinon l'adresse courriel, pas l'adresse Facebook, pas l'adresse Messenger, l'adresse courriel de l'Église. Et aussi, juste spécifier, nous ne recevons pas de texto. Donc, n'envoyez pas un texto au numéro de l'Église. C'est pas un cellulaire, c'est un téléphone fixe. Donc, on ne reçoit pas de texto au numéro de l'Église. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Faisons attention à ce qu'on dit. Faisons attention à nos paroles. Faisons attention de parler strictement au nom du Seigneur quand c'est le Seigneur qui parle. Et n'hésitons pas à dire « je pense que ceci ou je pense que cela qui n'incombe que nous ». Ne nous mettons pas en jugement devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.